J'espère que vous avez bien mangé. Vu l'heure, je vais vous présenter un peu un panorama d'alternatives qui existent, puisque l'idée, c'est un peu quand même de voir quel genre de logiciel libre on peut adopter. Je vais vous en citer, je ne vais pas tous forcément les montrer, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps, et l'idée c'est qu'il y ait aussi de la place pour la discussion avec les CMA et avec IEB sur leur parcours. Mais ne soyez pas frustrés si à un moment donné vous avez envie d'en voir plus sur un logiciel, comme il y a aussi a priori une petite partie qui est plus aussi pratique. Il y a moyen de venir me voir et je peux vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble par exemple. J'ai mentionné tout à l'heure que on avait des logiciels libres qu'on installait sur sa machine, sur son ordinateur, des logiciels libres qu'on va plutôt installer, qui en fait s'installent sur un serveur quelque part sur le réseau et auxquels on va accéder comme un service web, comme tout ce qui est Drive, très souvent aussi les webmails, par exemple l'interface de Gmail, c'est un logiciel qui est installé quelque part. Bon, en l'occurrence, sans doute à plein d'endroits parce que c'est Google et que Google a plein de serveurs. Mais c'est des choses qu'on n'a pas directement sur son ordinateur. Trois premiers logiciels que, en tant que tactique, on accompagne des associations à faire une transition vers le logiciel libre. Ça va être en premier lieu la suite LibreOffice en alternative à Microsoft Office. Firefox en alternative à Chrome, Edge. Et ces navigateurs Internet-là, donc c'est un navigateur pour accéder à Internet, un logiciel qui permet d'accéder à Internet. Thunderbird, qui est un logiciel de gestion de mail, et un peu différent de Gmail, parce que j'y reviendrai. En fait, c'est un logiciel qu'on installe sur son ordinateur et qui interagit avec les mails sur son ordinateur. Ce qui est intéressant au cas, par exemple, où comme Monsieur Kahn, on vous coupe l'accès à vos mails, c'est peut-être intéressant d'avoir votre historique de mails sur l'ordinateur et pas que au travers d'une interface web à laquelle, à un moment ou à un autre, vous pourriez ne plus avoir accès. C'est pour faire un petit lien avec ce que Chloé a présenté ce matin. Voilà, là, un logiciel sur lequel je vais m'attarder un peu, c'est Nextcloud. Donc, j'ai déjà parlé avant, c'est une alternative à potentiellement Dropbox, le Drive de Google, OneDrive, iCloud aussi. D'abord, vous le voyez ici sur l'image, c'est du stockage de fichiers. Donc c'est un outil où on va pouvoir avoir des dossiers, aller mettre ses fichiers, ses dossiers. Comme vous voyez, en fait, ici, ça c'est l'interface d'un Linux qui s'appelle Ubuntu. Donc si ceux qui connaissent Linux peut-être repèrent un peu, mais ça pourrait être une interface de Windows ou de macOS. Et en fait, on a à la fois des fichiers qui vont être dans l'interface en ligne et des fichiers qui se retrouvent dans l'ordinateur. En fait, si vous avez utilisé Dropbox fonctionne un peu comme ça. On a ces dossiers, ces fichiers en ligne. On peut potentiellement partager par des liens. On a ces fichiers aussi sur son ordinateur. Mais par exemple, le Drive de Google potentiellement intègre les fichiers dans l'explorateur de fichiers, dans le truc où on va chercher ces fichiers, ces dossiers sur son ordinateur, mais ne fait pas forcément une copie. On a parfois un petit nuage à côté qui dit qu'en fait, le document, il est que chez Google. Et on y accède à la demande. Ça veut dire aussi que si on n'a pas de réseau parce que, par exemple, on est dans le train, on n'y accède pas. C'est un logiciel qui intègre un peu comme Google de l'édition collaborative. C'est ici. En fait, il va me charger une interface où, en fait, je vais pouvoir gérer mes documents un peu comme dans Google Doc. Alors, c'est des éditeurs en ligne qui, parfois, manquent de fonctionnalités par rapport à ce qu'implémente Google, par rapport à ce qu'on a sur l'ordinateur. Quelqu'un me parlait des macros ce midi. Potentiellement, les trucs de macros, ça va moins bien fonctionner. Mais pour beaucoup d'usages, en fait, quand on utilise, par exemple, un traitement de texte et que l'idée, c'est d'écrire, d'avoir des styles, ce genre d'outil peut être très équivalent. En sachant aussi que, comme je le mentionnais, l'idée de Nextcloud, c'est potentiellement d'avoir une copie en fait de ces documents dans cet espace de stockage, donc qui est un cloud en fait, puisqu'on parle beaucoup de cloud ici, et sur son ordinateur. Donc en fait, c'est aussi des documents qu'on peut ouvrir sur son ordinateur avec LibreOffice ou avec même la suite Microsoft Office qu'on aurait sur son ordinateur. Un autre logiciel, Etherpad. On parlait tout à l'heure des Framapad. Si vous avez déjà utilisé les Framapad, c'est des bloc-notes. Où Ben, on n'a pas toute la mise en page d'un traitement de texte, mais on va pouvoir écrire du texte de manière collaborative, aussi avec des couleurs et avec un historique, ce qui permet potentiellement d'aller retrouver des bouts de texte qui ont été écrits 2 semaines avant, qu'on a supprimés, mais qu'on aimerait bien retrouver à un moment donné. C'est un outil qui, parfois, est assez complémentaire à un outil comme ce que Nextcloud intègre, en sachant qu'on ne va pas forcément faire de la mise en page, mais pour de la production de contenu, c'est une alternative qui est souvent utilisée. Là, je ne vais pas tout décrire, mais donc c'est un peu pour vous dresser le portrait global. On va avoir des outils pour ce qui est communication interne entre des personnes qui collaborent, qui travaillent ensemble. Mattermost, c'est un genre de, si vous connaissez Slack, c'est très similaire à Slack, avec des canaux pour des projets, avec un peu des fils de discussion distincts en fonction de projets, en fonction de groupes de travail. Les autres que vous avez ici, c'est potentiellement des outils de visio, Jitsi, que par exemple, Wiz me disait, lire et écrire, utilisait beaucoup Jitsi en fait avant le Covid, avant de finalement utiliser Teams. BigBlueButton, qui est adapté à plus aussi des classes virtuelles, mais qui permet de faire de la visio aussi. Donc vous aurez les noms, hein, comme je dis, genre, de toute façon, il y a l'idée qu'il y a un script et que ce soit surtout un support visuel. Et Wire, qui parfois est recommandé aussi, qui est un outil hébergé en Suisse, mais qui, en guillemets, a le désavantage d'être centralisé. Donc, en fait, contrairement aux deux autres, où voilà, un BigBlueButton, domaine public, propose un BigBlueButton. Il y a d'autres chatons, donc du collectif des chatons, qui proposent des BigBlueButton. On n'est pas dépendant d'un seul prestataire. Wire, on est beaucoup plus dépendant, finalement, de cette entreprise en Suisse. Mais c'est en Suisse, sous une législation qui, potentiellement, est meilleure en termes de gestion des données. De plus en plus souvent, il y a une utilisation de WhatsApp qui se fait entre des personnes qui travaillent entre elles. Il y a aussi des alternatives à WhatsApp. Hein. J'ai mentionné Signal tout en disant que lui aussi était centralisé. Là, j'en mets deux autres, Delta Chat et puis Matrix. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apps de messagerie similaires à WhatsApp. Et ces deux-là, par exemple, fonctionnent de manière décentralisée. Voilà, je pourrais un peu plus les décrire tout à l'heure, si vous avez envie. C'est un peu bref, mais comme je dis, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas non plus... De toute façon, je ne peux pas vous montrer tout, et voilà, c'est pas faisable. De plus en plus, avec ce qui se passe aux USA, en tout cas nous, côté tactique, on a une demande aussi pour ce qui est réseaux sociaux, alternatives à Facebook, à X, à YouTube, à Instagram. Il y a des logiciels qui travaillent en fait ce truc-là et qui permettent d'avoir des alternatives à ce type de réseau. Alors évidemment, il n'y a pas l'effet de masse qu'on va avoir, et ça fait partie des difficultés de transition, c'est que quand on va sur ces réseaux-là, on a un peu parfois l'impression qu'il n'y a personne. Mais on a par exemple Peertube, qui est une alternative à YouTube. Mastodon, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une alternative à X, Twitter, qui plus largement peut être aussi une alternative à tout ce qui est page Facebook, si l'idée c'est de diffuser des actualités, des photos, ce genre de choses. Mobilisons, qui est une alternative aux événements Facebook, donc de dire, maintenant en fait Facebook c'est devenu aussi notre agenda, très souvent, et en fait il y a moyen aussi d'aller héberger ces événements ailleurs, pour que quelqu'un qui n'a pas Facebook, par exemple, puisse y accéder. PixelFed, qui est une alternative à Instagram, avec une interface très similaire à Instagram, avec une grille de 3 photos et ce genre de choses. Et en haut, ce petit bonhomme, là, c'est Castopod, qui est un logiciel. Alors là, c'est plutôt un usage un peu spécialisé, mais je le mentionne quand même parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'assos ou d'organismes qui font des podcasts. Ben, en fait, ce truc-là permet d'héberger des podcasts. Du coup, en dehors de potentiellement le service d'Apple, le service de tous ces géants du numérique qui proposent des podcasts. Là, pareil, si vous avez envie de voir à quoi ressemblent ces différents logiciels, je peux me rendre disponible aussi par la suite pour un peu montrer ou qu'on regarde ça ensemble. Mais voilà, en une demi-heure qu'on m'a octroyée et qu'en plus on est en retard, j'ai pas tellement le temps de tout vous montrer. Nous, ce qu'on aime bien chez Tactic aussi rappeler, et j'ai dit on fait des sites web, c'est qu'en fait, les sites web, ça existe toujours. Et souvent, on voit son site web pour avoir des infos globales. Mais en fait, tout un temps, le site web, c'était aussi un outil pour mettre des actualités. Ça peut redevenir aussi un outil dans lequel on va mettre ces événements, on va mettre des actualités sur ce qu'on fait. On peut y ajouter aussi tout ce qui est liste mail, newsletter. En fait, c'est des choses que voilà, à des moments, on a moins utilisées parce qu'on s'est habitué aux réseaux sociaux. Et en fait, on peut aussi reprendre ces outils-là, reconstruire en fait des lieux d'information en dehors de ces plateformes. Linux, voilà, je parlais j'ai mentionné le BXLUG qui faisait des installations Linux. Finalement, le projet GNU, duquel j'ai un peu discuté, enfin, que j'ai un peu mentionné, est devenu GNU Linux, parce qu'on parle des deux. En fait, c'est couplé avec un projet qui s'appelait Linux de noyau, qui a fait en fait la partie un peu technique, entre guillemets, d'un système d'exploitation. C'est un peu vulgarisé, hein, je suis d'accord. Son logo, c'est ce petit pingouin que vous avez sans doute déjà vu. Linux, bah, en fait, c'est un système d'exploitation, mais en fait, qui peut avoir différents aspects. Et là encore, bah, je ne peux pas vraiment prendre du temps, évidemment. En plus, on n'a pas non plus de. Enfin, j'ai pas d'ordinateur de démo pour vous montrer. Mais voilà, par exemple, deux Linux qui sont assez connus et pas mal utilisés pour des personnes qui débutent dans Linux. Linux Mint, qui a un côté un peu avec un menu qui ressemble à la Windows. Et à quoi ressemble, par exemple, Ubuntu, qui est le système que, par exemple, Tactic, on installe pour les différentes assos pour lesquelles on maintient du parc informatique. Ça va être ce Linux-là, qui a une interface avec un espèce de dock, un peu à la Mac, mais sur le côté, avec des icônes. Voilà, c'est montré un peu rapidement, et il y a d'autres interfaces qui existent. En fait, comme c'est un système libre et que beaucoup de gens peuvent contribuer au développement, bah, il y a aussi beaucoup de monde qui amène ses goûts, finalement, ses envies, ses besoins dans ces projets-là. Et donc, en fait, on va avoir une flopée de ce qu'on appelle des distributions Linux et d'environnement de bureau. Donc, en fait, de systèmes Linux et d'environnement graphique dans lesquels on va naviguer quand on utilise Linux. Il était question, dans cette partie de la présentation, d'un peu évoquer bah, quelles sont déjà les difficultés en fait qui peuvent arriver à l'adoption de ces logiciels. Tout à l'heure, bah oui, je discutais des macros et effectivement, il y a certains usages très avancés de, par exemple, Excel, je sais, ne se retrouve pas ou en tout cas manque de compatibilité avec un logiciel comme LibreOffice. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui utilise ce genre de fonctionnalités, donc pour moi, la compatibilité est très bonne et je pense que pour beaucoup de gens, en fait, la compatibilité est très bonne entre ce type de logiciel parce que justement, on ne va pas aller utiliser des fonctionnalités très très avancées. C'est peut-être un truc sur lequel on reviendra dans la discussion plus tard, mais nous, on a aussi des associations où ben, on va avoir par exemple des personnes qui vont passer sous Linux dans l'association et qui vont utiliser que du logiciel libre. Et puis d'autres, par exemple la comptabilité ou la partie qui s'occupe du graphisme, qui en fait vont encore utiliser aussi d'autres logiciels comme Windows ou comme Mac, avec potentiellement des logiciels propriétaires. Donc c'est aussi une transition qui est à certains moments se fait en phase à différentes étapes et aussi parfois ben, se fait avec une partie de l'équipe, mais pas forcément tout le monde. En fait, les plus grandes difficultés que moi je constate en tout cas que formatrice, là pareil, ben, on verra dans la discussion ce qui peut potentiellement apparaître comme autre difficulté, c'est finalement moins quelque chose de l'ordre technique que quelque chose un peu de l'ordre plus conceptuel. Et là, vous voyez que j'ai un schéma qui ressemble beaucoup à ce que j'ai montré au niveau du mail. Sauf qu'en fait, ce n'est pas des mails, c'est des clouds. Ben, quand vous avez un outil comme Nextcloud, ce logiciel-là dont j'ai montré un peu l'interface et dans lequel on peut collaborer, en fait, votre Nextcloud, il va être accessible à une adresse spécifique. Par exemple, pour le journal Curseur, on a un cloud.curseur.be. Tactique, on a un cloud.tactique.asbl.be. Et en fait, si on se dit qu'on veut trouver ce logiciel Nextcloud et qu'on cherche dans son moteur de recherche juste Nextcloud, par exemple Nextcloud Curseur, ben en fait, on ne va rien trouver parce que le moteur de recherche va juste voir Nextcloud, il ne va pas savoir que Nextcloud Curseur, on va vouloir pointer sur cloud.curseur.be. Et donc, par exemple, bah, je pourrais prendre d'autres exemples, hein, mais c'en est un puisqu'on a parlé justement de cet aspect de centralisation et de décentralisation. Bah, pour joindre le cloud de Curseur, on va devoir avoir le réflexe finalement d'aller donner son adresse dans la barre d'adresse. Ou si je veux aller chez Tech, par exemple ici sur mon cloud de démo de tactique cloud.tactique.be, bah, je vais aussi devoir donner cette adresse-là Et c'est pareil pour d'autres logiciels. Par exemple, récemment, j'ai une personne qui a un compte sur le Peertube de domaine public qui, en fait, me disait, ben, je sais pas, j'ai plus accès, il me dit que mon compte n'existe pas. En fait, elle avait tapé Peertube dans son moteur de recherche, ça l'avait menée sur un autre Peertube, et donc elle essayait de se connecter à un Peertube où elle n'avait pas de compte. Et donc forcément, bah, ça marchait moins bien que sur le Peertube où elle avait un compte, parce qu'en fait, bah, elle avait plus pensé que bah, des Peertube, il y en avait une flopée, comme des Nextcloud, il peut y en avoir une flopée. Je vais un peu vite, parce que voilà, c'est pas une formation cloud que je vous donne, c'est plus faire percevoir un peu ces aspects-là. Mais voilà, en fait, quand on utilise finalement ce type d'outil, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre finalement d'une réappropriation un peu de savoir, pas forcément hyper technique, pas dans l'idée d'être comme des mécaniciens ou des mécaniciennes, comme des informaticiens ou des informaticiennes qui vont tout connaître des protocoles, mais de voir un peu la manière dont ça fonctionne. Et avec Abelli, dans la face cachée du clic, parfois avec les CMA, on fait un peu une activité où on demande aux personnes de dessiner qu'est-ce qui se passe quand elles font une requête Internet. Beaucoup de gens s'aperçoivent que autant bah, une voiture ou un vélo, elles seraient capables d'un peu dessiner comment ça fonctionne, même sans être mécanicien ou mécanicienne, autant elles remarquent qu'avec le numérique, bah, elles n'ont aucune idée en fait de ce qu'il y a derrière. Et c'est normal parce que on est constamment face à des plateformes qui intègrent tout. Chloé parlait de cette intégration verticale. On est vraiment devant des outils qui englobent tout et donc en fait qui masquent toute l'architecture technique qu'il y a derrière, qui encore à une époque pouvait potentiellement être un peu perceptible quand on utilisait certains outils. Maintenant, on est vraiment dans un tout intégré où du coup tout disparaît finalement sur qu'est-ce qui réellement se passe quand on utilise ces outils-là. Typiquement, est-ce qu'on a nos mails sur un serveur quelque part dans un data center? Oui, c'est un très beau tiroir qui fait ce serveur-là. Est-ce qu'on a nos mails sur un ordinateur? Bah, parfois, il y a des personnes qui s'en rendent compte au moment où le Google, Yahoo décide de couper son accès mail parce que un algorithme a détecté que la personne enfreignait des conditions d'utilisation et se rendent compte qu'en fait tout leur mail n'était pas sur leur ordinateur mais était uniquement dans un data center quelque part ou dans des data centers quelque part et pas chez elles sur leur ordinateur. Donc voilà, il y a quelque chose finalement qu'on utilise du libre qui participe plus largement finalement d'une éducation au numérique et un peu de voilà, de recomprendre comment les choses fonctionnent. Et je pense qu'en fait, c'est un peu bêtement la plus grande difficulté de l'adoption de ces outils-là, avec bien sûr, dans certains cas aussi, l'effet de masse, quoi, de transition à faire de manière à certains moments commune aussi. C'est plus ces aspects-là. Et je crois que je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Et donc, je crois que je vais laisser la place au. Comme ça, on ne prend pas trop de retard non plus et on laisse la place à la discussion. Je trouve que j'ai déjà beaucoup parlé aussi. Et peut-être ça laisse la place aussi à une ou deux questions. Je ne sais pas si on.